a vraiment apporté quelque chose de brûlant qui m'ont demandé si j'étais capable d'emporter quelque chose sur la fête des papas. Donc, je me suis préparé en conséquence à la fête des papas. Donc, beaucoup d'hommes, après la fête des mères, ils disent « J'espère que les femmes vont passer par là aussi. » Donc, je vais essayer de faire ça poliment, mais on va regarder qu'est-ce que la Bible nous dit. Vous savez, en 2024, être un homme, c'est toute une histoire, être père de famille. Là, 30 ans, j'aurais prêché un message, j'aurais été complètement différent. Aujourd'hui, on est dans un désordre total dans notre société. Il n'y a rien qui fonctionne. L'homosexualité, l'étrangère, tout est mêlé aujourd'hui. Être père de famille, je vous que ça doit être pas évident de vivre dans toutes ces situations-là. Mais quand même, on a un guide, on a une parole. La parole de Dieu qui est là pour nous aider, nous diriger en travers ces choses-là. Et ce matin, je vais faire le message en deux points qui vont être importants. Je vais lancer beaucoup de lignes de pensée. C'est quoi un père? Donc, c'est pas facile. Honnêtement, je regarde dans qu'est-ce qu'on est. Je parle avec des hommes ou des pères de famille, puis ils me disent, Serge, quelle galère qu'on est aujourd'hui. Ah, c'est pas facile. Et c'est vrai, j'imagine que en tant que parent, il faut être vigilant. Alléluia! Je dirais c'est le mot « vigilance ». Mais on va regarder quand même peut-être des aptitudes ce matin qui peuvent peut-être aider un père d'être proche de son enfant. Je pense que je me souviens, là, quelques années avant que je tombe malade, je faisais beaucoup d'activités physiques. Moi, je faisais beaucoup de danse à Ryubi, ça paraît pas, là, mais je sautais pas mal haut. Là. Tu sais, là, j'étais en forme, et puis, mais la fille qui nous dirigeait, la dame qui nous dirigeait, on parlait sur les enfants, ces choses-là, puis elle me disait toujours, elle me disait, Serge, elle dit, moi, pour avoir voulu garder mes enfants près de moi, je les ai mis dans l'activité. Et c'était une grande clé pour elle de garder ses enfants proches, que papa qui tombe dans l'esprit de ce monde. Donc, ce matin, on va regarder plusieurs clés. Il y a peut-être des clés où vous allez dire « je ne suis pas d'accord ». Il y a des clés peut-être de « moi, je vis ça ». Mais on va regarder l'ensemble. Prenez ce qui est bon pour vous et puis après ça, bien, analysez ça devant le Seigneur. J'ai donné le titre de ce message parce qu'à la deuxième partie aussi, le message va concerner vous, madame, en travers votre mari aussi. Donc, vous êtes là pour l'appuyer. Hein, madame, dites-moi un gros amen. Alléluia. Monsieur, dites oui, c'est vrai. Alléluia. Donc, on est là pour se complémenter. Est-ce que c'est ça un couple? On se complémente les uns les autres. Et je pense que la fête des pères, la fête des mères, c'est des sujets qu'on doit parler de la famille. C'est des choses importantes en tant qu'Église, en tant que communauté d'Église, que la famille fait partie de la vie. C'est vos enfants, c'est votre femme, c'est votre épouse, et on doit en parler. Donc, je ne suis pas un spécialiste de relations d'aide comme un frère comme Denis Morissette qui a des bacs dans tout ça, mais on a quand même une bonne expertise de qu'est-ce qu'il en est en tant que famille. Donc, j'aimerais lire avec vous Jean 17, verset 6, qui nous dit, j'aimerais donner le titre du message, « Madame, encouragez vos maris pour qu'ils deviennent un bon leader ». Dans son foyer. Et je crois que 2024, on a besoin d'hommes, de leaders forts dans leur foyer. Dites amen, monsieur. J'ai besoin d'être fort dans mon foyer. Hallelujah! C'est ta responsabilité. Dieu a créé l'homme avec une responsabilité. Et si ça ne va pas bien toujours, parce que nous ne prenons pas la responsabilité qui nous a été donnée. Donc, Jean, chapitre 7 et verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. » Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ce temps de louange, d'adoration. Seigneur, ce temps où il y a eu des paroles qui étaient données. Seigneur, qu'on puisse germer ça dans notre cœur, de ne pas oublier que juste les paroles, mais Seigneur, d'aller sonder qu'est-ce qui a été donné. Seigneur, on veut marcher dans tes voies. On veut marcher dans tes directions. On veut marcher dans ta faveur. Seigneur, qu'on veut être des enfants obéissants et Seigneur, de sonder qu'est-ce qui nous est dit. Père, bénis ton peuple, encourage-nous, fortifie-nous, fais-nous du bien ce matin. Et Seigneur, je veux juste te remercier pour ce temps que nous passons ensemble dans le beau nom de Jésus. Amen et amen. Donc, comme on disait en entrée, nous sommes aujourd'hui la fête des pères. Et en réalité, c'est quoi un père? Et comme j'ai dit, c'est un défi qui est devant vous, devant tout homme. Et pour arriver, madame, monsieur a besoin de vous. Dites un gros oui, madame. Madame, vous avez besoin d'accompagner votre femme. Dites un gros oui, madame. Alléluia! J'aimerais regarder avec vous deux conseils. Ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est quoi un bon père de famille? Donc, j'ai lu beaucoup, j'ai fait des recherches, j'ai tout fouillé, donc préparé le message. Vous savez, on ne devient pas père de famille, on apprend à devenir le père. La première chose qu'il faut réaliser pour être un bon père de famille, on doit connaître premièrement le cœur du Père, le vrai Père céleste. Et dans Jean 7, verset 6, il nous dit « J'ai fait connaître ton nom au milieu, aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Donc, nous voyons dans ce texte que Jésus a fait connaître son Père à ses disciples. Cela signifie que Jésus a parlé, a enseigné sur le cœur de son Père, sur le caractère de son Père. Il a parlé de son amour, il a parlé de sa grâce. Il a brossé un portrait parfait du Père céleste qui, à notre tour, si nous avons cette communion, cette intimité, je dirais, avec le Seigneur, donc on va être capable de mettre ou de transmettre l'amour du Père dans nos foyers. Alléluia! Donc, c'est le cœur de Dieu pour le foyer. Jésus a dit à ses disciples, je les ai transmis la parole. Malgré leur manquement, malgré qu'ils n'étaient pas parfaits, parce que pour personne de parfait, Jésus a dit qu'ils ont obéi à tes commandements. Par notre appartenance, je dirais ce matin, au Père céleste, par notre adoption, Dieu veut que nous soyons impliqués dans le fonctionnement dans l'entreprise familiale. C'est le plan de Dieu, la famille. Alléluia! Il ne faut jamais perdre de vue que Dieu, ça a toujours été son plan, qu'il y ait une famille dans le monde. Et nous faisons partie d'une grande famille, l'Église, mais aussi la famille en tant que père, en tant que mère, c'est le plan de Dieu. Donc, mais pour cela, l'homme a besoin de comprendre que signifie être un bon papa. C'est quoi d'être un bon père de famille? Un bon père de famille, comme je viens de dire, connaît premièrement le cœur de son Père céleste. Il le transmet à sa famille. Un bon père de famille prend le temps d'entrer dans la présence. Il devient un intercesseur pour sa famille. Son cœur désire, je dirais, de voir la famille, sa famille grandir dans les voies de Dieu. Et il intercède pour chaque membre de sa famille, pour la protection de sa famille. Et il sait, si nous sommes chrétiens, nous savons, en tant que parents, que nous avons un adversaire. Tout le monde est d'accord avec ça? Et nous savons également que nous sommes dans la fin des temps. Donc, je dirais, en premier lieu, ce matin, parents, soyez vigilants avec vos enfants. Aujourd'hui, c'est le cellulaire. Aujourd'hui, c'est Internet. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est la fréquentation dans les écoles, la fréquentation avec leurs amis. Et donc, je dirais, soyez alerte. L'ennemi ne veut que voler et détruire votre famille. La parole nous enseigne dans 2 Timothée 3:2, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. » Je dirais, dans cette vigilance, regardez l'évolution de vos enfants, leur comportement. C'est le signe qui va parler de comment se comporte votre enfant. Soyez vigilants. Le monde que nous vivons est féroce. Notre culture est en rébellion contre Dieu. Est-ce que c'est vrai? Donc, un enfant rebelle, c'est un enfant qui refuse, qui résiste d'obéir. Il se révolte contre ses parents. L'esprit du monde le pousse à mal agir en travers la famille. Alléluia! La parole de la parabole de Luc, chapitre 15, verset 11, est un bel exemple que cet homme-là voulait avoir l'argent, voulait faire son monde. Il est parti, vous connaissez l'histoire. Et le père a sûrement prié pour son fils. Le père a été sûrement patient avec son fils. Sûrement qu'il était là en arrière, dans la prière. Et son fils est revenu à la maison. Et la patience, l'amour, le support moral et spirituel peut faire la différence dans un foyer. Dites-moi un gros amen. C'est la différence qui doit être mise. Un père va se battre, qui va combattre le bon combat de la foi pour que ses enfants restent dans le Seigneur. Hallelujah! Un père est là pour vous protéger. Il les ramène, ses enfants, sur le bon chemin. Il prie que le Saint-Esprit lui donne la sagesse pour bien diriger les siens. Il veut diriger sa famille dans la faveur du Père. Hallelujah! C'est la base de la vie chrétienne pour un père de famille. Un bon père de famille sait intervenir, il sait discipliner. C'est un mot aujourd'hui qui est dur, discipliner. Les enfants se font discipliner aujourd'hui, ils se rebellent. Ils ont tout. Alléluia. Papa donne des bonbons, maman donne des données, puis papa donne ci, papa donne ça. Puis à un moment donné, on a de misère à discipliner. Donc, là, le rôle du père et de la mère pour tenir la route ensemble, d'aller dans la même direction ensemble, pour faire comprendre à l'enfant. Tu ne peux pas marcher sur les deux chemins. À un moment donné, le jeune va te mêler. Donc, il faut garder la ligne de conduite. Monsieur et madame, faites attention à vos enfants. Vous savez, on a connu des amis, et à toutes les fois qu'on allait là, parlait mal des autres, mal de leur église, mal du pasteur. Et les enfants ne veulent plus venir à l'église. Ils disent, ça n'apporte rien d'aller à l'église, ils ne sont pas mieux qu'eux autres. Ils entendent. Donc, un bon père de famille devrait être capable de contrôler ses émotions devant ses enfants quand tu veux parler de quelque chose de sérieux. Mieux te mettre à part de se parler en couple que parler de ça devant les enfants. Allô? Il sait, un père de famille, que les mauvaises paroles attirent la tristesse du cœur de Dieu. Et ça brise l'unité dans le foyer. Un père de famille doit devenir un protecteur pour son foyer. Allô? Un bon leader, un bon père de famille est sensible aux besoins de la famille. Pourquoi? Il veut le bien de sa femme, il veut le bien de ses enfants. Il a le sens de la responsabilité familiale. Il sait qu'il doit pourvoir à sa famille. Alléluia! Un homme, c'est normal qu'on va travailler. Dis avec moi, mais c'est normal que je m'en vais travailler. Là, on va dire aux autres, c'est normal, je suis à la retraite. C'est normal, on a travaillé, comprenez-vous? L'homme est là pour pourvoir aussi aux besoins de la famille. Alléluia! Donc, tu as une responsabilité, monsieur. Un homme responsable désire sécuriser sa famille. Donc, il veut prendre soin d'elle. Il sait que plus tard, que ses enfants, peut-être qu'ils auront besoin de lui financièrement également. Un bon père de famille prend le temps aussi d'étudier la parole de Dieu, la mettre en pratique dans son foyer. Il veut transmettre l'amour, la grâce de l'amour du Père. La parole est le guide pour le Père. Il prend le temps de donner de l'amour, il prend le temps de donner de la joie, de la paix. Il prend le temps de prier aussi avec les enfants. Allô? Parents, prenez-vous le temps avec vos enfants de prier. Alléluia! Prenez-vous le temps de lire la parole avec vos jeunes. Ou s'intéresser aux jeunes. Tu lis-tu ta parole? Tu pries-tu? Intéressez-vous à vos enfants. Jésus a dit, « Car je vous ai donné les paroles que tu m'as données. » Ils les ont reçues, Jean 17, 8. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta parole, Jean 17, 14. Jésus nous a laissé la parole. La parole, nous savons, c'est le chemin, la vérité et la vie. Elle est là pour nous instruire, elle est là pour nous corriger. Elle est là aussi pour être ce leader. Et je pense que les leaders, les hommes, c'est le temps de prendre position pour votre foyer. Prenez position, parce que si vous ne prenez pas, c'est l'ennemi qui va prendre l'autorité et vous allez tout perdre. C'est à vous, parents, d'être vigilants. Je le répète, la vigilance dans le foyer est importante. Autant avec Manon ou moi dans nos vies, on est vigilants ensemble. On se parle des choses, on en parlait tantôt. Donc, il faut être proche de vos enfants. Oh, dites-moi un gros amen ici. Alléluia. Nous pouvons connaître le cœur de Dieu comme le Créateur, mais également comme un Dieu personnel, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de compassion. L'amour dans le foyer, comme notre Père céleste est amour. Vous savez, je vais me prendre l'illustration d'un Père. Un Père qui m'écoute, un Père qui est tendre avec nous, un Père qui est patient avec nous, mais un Père céleste qui nous reprend, qui nous corrige, qui nous dirige, qui nous console, qui nous exhorte, qui nous relève. L'amour du Père veut notre bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, son amour veut juste nous éviter des problèmes. Alléluia! Ça se fait par quoi? Par la parole de Dieu, par l'obéissance à la parole de Dieu. Recevoir l'amour du Père, c'est d'être capable de l'appliquer à la famille également. Un père qui est capable de reprendre ses enfants, de le corriger, de le discipliner, de le consoler également, de l'exhorter, de le relever dans l'amour aussi du Père. C'est un Père qui est intentionné et veut le bien de sa famille. Alléluia. Un Père aimant va accompagner ses enfants, sa femme, même dans les saisons les plus délicates. On a connu des gens dans des temps plus délicats, puis les parents, ils ne voulaient plus rien savoir de leur enfant. Ils ne connaissent pas, ils sont en tête, ils ne veulent rien savoir, c'est compliqué. Quand ça passe la crise de l'adolescence, c'est pas tout le monde qui passe en douceur, là. Tu sais, fait que les parents, des fois, ils disent « lui, là ». Mais il faut être là. Il faut être présent avec lui. Il faut le ramener sur le bon chemin. Alléluia! Malgré ses erreurs, malgré ses fautes, madame, appuyez votre mari. Allô? Madame, c'est le temps d'être avec votre mari pour l'appuyer. Alléluia! Monsieur, emportez la sagesse, emportez le conseil, donnez-lui des paroles d'encouragement. L'amour, c'est sensible aux besoins. Un père qui est en sécurité avec Dieu, c'est un père qui va être en sécurité dans sa... qui va dégager la sécurité dans son foyer. Allô? C'est un bon rassembleur, c'est un bon leader, je pourrais dire. Il respire la confiance et cela, ça dégage par les mots. Si vous êtes toujours méchant dans vos mots avec vos enfants, vous ne le valorisez pas. T'es pas bon, tu ne feras rien à ta vie, puis tatati, puis tatata. Moi, j'ai connu ça en cause de l'infirmité. Mon père dit, toi, tu fais tout croche dans ta vie. Je dis, arrête de me dire des choses comme ça. J'ai pris position avec mon père à m'amener. Je vais réussir ma vie, même si j'ai des handicaps dans ma vie. Encouragez-les. Soyez avec eux. Soyez fiers d'eux. Alléluia. Vos paroles, c'est porteur de vie et vos paroles sont porteurs de mort également. Mais un père va trouver les bons mots approprié pour rassurer ses enfants et son épouse et leur apporter l'assurance et la confiance qu'ils ont besoin. Le plus grand héritage qu'un père peut donner à ses enfants, c'est le modèle que vous allez lui laisser. La Bible nous dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7, « En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achée. » Tite 2, 7 et 8, Tite, montrant toi-même à tout égard un modèle en bonne œuvre et donnant un enseignement pur et digne, une parole sainte et irréprochable afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Donc, on voit que la meilleure chose que tu peux donner à tes enfants, c'est ta vie, ton témoignage. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est un modèle d'amour. Donc, les gens prenaient le modèle de Paul parce que Paul leur donnait un modèle de l'Évangile. Ils voyaient un homme passionné, un homme en feu, un homme encourageant. C'était un modèle. Donc, Paul il dit, « Sois un modèle en bonne œuvre, dégage le fruit. Donc, ce que tu enseignes à ton enfant, fais-le toi-même. » Allô? L'argent, c'est pas ça que le jeune a besoin, mais c'est le temps que vous allez passer ensemble avec lui également. Comme Jésus a passé du temps avec sa famille. La même chose pour le père de famille, c'est donner du temps à vos enfants, à vos femmes. Un papa, j'ai fait un peu d'humour avec ça, un papa, c'est un héros sensible. Un héros sensible, c'est le Superman de la crème glacée qui va faire plaisir à ses enfants. Il va passer du temps de qualité avec ses enfants. Ce qui est le plus précieux pour l'enfant, c'est d'être à côté de ses parents. C'est votre présence, monsieur et madame. Soyez intéressés à sa vie, à ses désirs, à ses projets. De l'accompagner, preuve de votre amour. Surtout les jeunes familles, je me souviens, on allait dans des familles, puis le papa le matin, c'est le papa qui faisait le déjeuner aux enfants. Et les enfants étaient contents. C'est papa qui servait les enfants. Puis madame était contente de pouvoir se reposer un petit peu. Et la femme était contente de voir son mari s'impliquer avec ses enfants. Alléluia! Le complément parfait de l'homme, sa femme. Et sûrement que son épouse va lui dire, « Quand je t'ai vu ce matin avec les enfants, c'est une ligne d'idée que je vous donne, ça m'a encouragé, tu as passé du temps avec eux, tu as donné du temps, tu as donné ton temps. » Écoutez bien, et quand tu as démontré ton temps, tu as ri avec eux, ils étaient contents d'être avec toi, tu as mis de la gaieté dans leur vie. L'enfant se sent sécurisé avec son papa. Et le foyer a besoin de ces choses-là. Parce que, vous savez, les hommes, là, nous les hommes, là, nos émotions, là, on a de la misère avec ça. Soyez francs, monsieur. Là. Moi, là, je ne suis pas le gars qui s'exprime toujours le plus avec mes émotions. Puis des fois, Manon m'arrache les mots, mes paroles de mots. Puis je dis, tu sais, Manon, elle dit, je veux que tu le dises. Je ne sais pas si c'est pour vous, madame, là, ou je suis tout seul dans cette partie-là, là. Donc, c'est bon également quand un enfant est heureux et joyeux, puis c'est bon d'entendre, quand la femme entend son mari lui dire « Tu aimes tes enfants », la femme a besoin de voir son mari s'exprimer avec ses enfants. Et madame également, dites-le le plus souvent à votre mari que vous l'aimez. Dites-le à votre mari « Je t'aime, mon amour ». Et que c'est dur, ces sentiments de dire… Si vous l'avez marié parce que vous l'avez aimé, si vous l'aimez, dites-lui que vous l'aimez. Attends pas qu'il soit parti. Dites-le de votre vivant. Lui dire merci, mon amour, pour les besoins que tu rencontres à la famille. Lui dire ah, tu es la plus grande bénédiction, même si tu étais détestable. Affirme, positionne-toi. Ça fait du bien à l'âme d'entendre ton partenaire dire « Je t'aime, mon amour. T'es pas facile à vivre, mais je t'aime pareil. » Ça fait-tu du sens à quelque part? Un vrai leader, c'est un père qui a une main de fer dans un gant de velours. Vous savez, discipliner, c'est une grande chose. Mais le reprendre, quand il faut le temps de le reprendre, sans le briser et sans le bousculer, je pourrais te dire, c'est tout un job. C'est comme un pasteur, hein? Vous savez, vous connaissez des jobs de pasteur, des fois, pas trop facile. En tout cas, Manon, elle me dit souvent, respire, respire, respire. Alléluia! Donc, on a des combats, on a des luttes, on est loin d'être parfait. Mais l'enfant doit comprendre le pourquoi de vos décisions, pourquoi vous disciplinez. Et souvent, l'enfant ne comprend pas l'action du père, pourquoi tu l'as tapé ou tu l'as repris, pourquoi tu l'as mis en punition. L'enfant doit savoir pourquoi. C'est savoir communiquer à ses enfants. Alléluia! Nous sommes dans l'âge de l'éducation. Tout est éducation aujourd'hui. Donc, si on est dans l'âge de l'éducation, mais éduquez vos enfants, pourquoi vous faites vos actions? Éphésiens 6, 4. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et Colossiens 3, 1. Pères, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent. Et le mot hériter veut dire provoquer de la colère. Pousser à la colère, ça veut dire ça, hériter. Vous savez, à l'époque de Paul, dans les familles de l'époque, c'est le père exerçait, je pourrais dire, une autorité très dominatrice et très rigide. L'apôtre affirme à travers ses textes que si un père est trop autoritaire à travers ses enfants, ça va être difficile pour sa vie. Vous savez, on ne devrait pas autoriser à imposer des exigences que l'enfant ne peut pas concevoir et ni comprendre. Il faut laisser le temps. L'éducation, c'est une marche. On n'est pas rendu à notre âge dans une journée. On a passé l'adolescence, on a appris. Papa m'a repris, maman m'a repris, on a appris, on était éduqués. Donc, tu as fallu que tu apprennes les choses. Mais si tu vas trop vite, pense pas à un garçon de 15 ans, 20 ans ou 7 ans de penser comme un homme de 50 ans. Impossible, il ne comprendra jamais ces choses-là. Donc, prenez le temps de lui faire comprendre. Ne traumatisez pas les enfants, l'enfant de ne pas avoir peur de son père. Vous savez, en cours de route, à travers le ministère, on a rencontré des parents avec des enfants et j'ai toujours cette illustration Manon, on pourrait peut-être vous en parler un peu plus, mais on avait une jeune fille qui venait dans une église, elle avait 15 ans. On parle d'une adolescence. Et cette jeune fille-là, elle est tombée en amour avec un jeune homme. Donc, qu'est-ce qui arriva, arriva. Hein? On comprend que ça a passé par là et j'ai posé une question. Je dis, te protèges-tu au moins? Tu sais, la première des questions, tu te protèges-tu? Elle dit non. Il dit, tu te vois-tu à 15 ans avec un enfant? Et la mère est inquiète pour sa fille, puis elle avait raison d'être inquiète. À quelque part, je n'avais pas les outils pour tout m'en aller là. J'ai appelé frère Denis Morissette, un bon ami à nous. J'ai dit, Denis, j'ai besoin de conseils. Et Denis m'a dirigé dans un super conseil. Ça s'est bien déroulé. Et voyez-vous, la femme, la mère est inquiète de son enfant, puis elle avait raison. Et si vous êtes proche, vous allez voir ces choses-là. Donc, s'intéresser à l'enfant, d'être proche de lui. Sinon, si vous êtes trop dur, trop sévère avec lui, la mère, elle a fini par le faire comprendre à sa fille qu'elle n'était pas d'accord avec son ajustement, mais qu'elle lui a pardonné. Elle avait le choix de perdre son enfant ou garder son enfant. Et on parle de pardon à travers nous, mais on peut parler de pardon avec le père, la mère et l'enfant aussi. D'être conciliant quelque part pour retrouver des bonnes voies. C'est sûr que faire des choses comme ça, il n'y a aucun parent qui va être content de ça. Ou un parent qui va arriver et va dire « Votre fils est un homosexuel, vous ne sauterez pas de joie, je suis convaincu. » Mais vous faites quoi avec ça? Non, mais c'est des questions de société aujourd'hui. On est dedans. On est droit dedans. Comme père, je fais quoi? Je le repousse. Il y a des parents qui vont le faire. Il y a des parents qui vont dire non. Mais voyez-vous l'équilibre, comment ça peut être fragile à des places. Mais si on dramatise l'enfant, ça va suivre toute sa vie. Vous allez le perdre. Appliquez-le. Mettez le respect, mettez l'amour. Il a besoin de respect. Il a besoin de comprendre, gagner la confiance. Il vit avec des sentiments, il vit avec des émotions. Être disciplinaire, c'est une très, 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 très bonne chose. Il faut le faire, mais il faut savoir doser. Tu peux pas toujours... c'est comme nous autres, on vous flasherait tout le temps. Là, là. On dit, c'est quoi son problème, lui? C'est ça que vous allez me dire. C'est pareil pour un enfant avec son père. Si vous le flashez tout le temps, il va dire, c'est quoi le problème de mon père? Les jeunes se révoltent, les jeunes s'en vont de la maison, ils vont aller traîner avec des gangs de rue, puis il va dire, mon père, ma mère me comprennent. C'est des réalités, frères et sœurs, qu'on parle ce matin. C'est la vraie vie, cela. Si vous poussez trop loin, vous allez tout perdre. Prenez le temps de prier ensemble, ça devient important. Un papa, également, c'est un terrain de jeu. Les activités sont importantes. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Nintendo. Ordinateur. Les mains des gens, regardez les mains, là, ils n'ont plus de mains, ils ont toutes des mains comme ça. Pourquoi ils ont toujours le téléphone dans les mains? Ils ont toujours sur le téléphone. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Parle à quelqu'un, tu vas au restaurant, toi, on a le téléphone. On dort, puis on a le téléphone comme ça. Pour ne pas manquer un appel. Faites des activités avec les enfants. J'ai pris des exemples. La pêche ne coûte pas trop cher. Tout le monde peut aller là. Le sport, le ski, le hockey, marcher, bicyclette, aller à la piscine. Soyez avec, soyez ensemble. S'intéresser à sa vie. Hallelujah! Moi, dans mon jeune temps, j'aimais la pêche. Et mes parents m'emmenaient à la pêche. J'aimais ça, aller à la pêche, aller sur le bord de l'eau pour sortir le poisson. Je tripais bien raide, moi, là. Avec la famille, les fins de semaine, camping, marshmallow, hamburger, les hot dogs avec la famille. J'ai même joué de la musique avec mon père. Donc, il y a eu des images de mon adolescence qui ne revient. Puis, quand mon père est décédé, vous savez-vous, la seule chose que j'ai demandé comme héritage, que je voulais rien d'autre, je voulais avoir son violon. Parce que le violon, moi, j'ai joué de la musique avec mon père. Donc, les fins de semaine, on jouait des noces, je n'étais pas chrétien à l'époque, là. Puis on était dans le monde, mais mon père jouait du violon. Et la seule chose que je demandais à mon père, c'est le violon. C'était une valeur sentimentale pour moi. Il n'y avait rien de plus précieux que le violon. Ça me rappelait toute ma jeunesse. J'ai été marqué par cette approche-là avec mon père. Voyez-vous, c'est important, les valeurs qu'on va donner aux enfants. Prenez le temps de graver cela dans le cœur des enfants. Vous vous rappelez comment vous étiez proche. Un papa, également, c'est quelqu'un qui est patient, qui est généreux et attentif. C'est un grand enfant qui s'amuse. Avez-vous un cœur d'enfant, papa? Avez-vous encore ce cœur d'enfant-là? Ah, vous posez une question, je n'ai pas de gros amen ici. Hein? Avez-vous toujours ce cœur d'enfant avec vos enfants? Capable d'écouter les enfants, de parler à son enfant. La communion qui vient importante. Quand il sera adulte, ça va être plus facile pour lui de vous approcher parce qu'il sait qu'il y a une oreille qui va l'écouter. S'il y a eu des problèmes en cours de route, on passe par le pardon, mais regagner cette confiance qui n'était pas là. Alléluia! Donc, soyez attentifs. C'est la base, le respect. Savoir écouter son enfant, c'est discerner qu'est-ce qu'il vit également. De là vont venir les bons conseils que vous allez lui donner. Donc, être un papa, c'est être intentionné. C'est ça, un père. Allô? Ça vous rejoint-tu un peu, les pères, un matin? Vous voulez quoi pour vos enfants? Vous voulez le meilleur? Est-ce que c'est vrai? Je ne crois pas qu'un père veut le pire pour son enfant. Un père veut le meilleur pour ses enfants. Il va investir de l'argent, il va investir du temps, il va lui donner ce qu'il peut lui donner. Et ça se passe quand on est proches ensemble. Vous savez, au fur et à mesure que vous continuez à aimer et investir, vous allez voir que ça va vous rapporter dans votre futur. Alléluia! Donc, vous allez être proche de vos enfants. Donc, vous allez vous lui donner l'amour que vous avez donné, il va vous le redonner en retour plus tard. Et ça, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. C'est une grande réalité. En tant que père, encouragez, aimez, démontrez que vous avez confiance en lui et dites-lui un mot qu'on ne dit pas souvent, « Je suis fier de toi, mon fils et ma fille. » Ça a du sens? « Je suis fier de toi, mon fils. Je suis fier de toi, ma fille. » Laissez-moi vous dire que les sentiments, c'est important. Un papa n'exige pas que ses enfants soient adultes avant le temps. La plus grande fierté, je ferais dire, d'un père, avant d'aller dans le deuxième point, c'est d'entendre dire que « Moi, j'ai vu le Seigneur agir dans la vie de ma mère. J'ai vu le Seigneur agir dans la vie de mon père. J'ai vu le Seigneur répondre aux prières de mes parents. Et donc, moi aussi, je veux suivre le Seigneur parce qu'est-ce qu'il m'a enseigné, c'est vrai. » C'est la plus grande fierté qu'un père et une mère doit dire, d'être fier, de voir l'héritage que vous leur donnez. Donc, ils voient un Dieu qui agit dans leur vie, ils voient un Dieu qui agit dans vos vies, et tôt ou tard, il va dire, « Moi, je vais suivre le Seigneur, parce que qu'est-ce qu'ils m'ont donné, c'est vrai. » C'est l'éducation que vous leur donnez. Alléluia. Je sers le Seigneur de mon Père. Wow! Ça, c'est un héritage. Soyez fiers. Si vos enfants vous disent ça un jour, dis-toi, mon homme, tu as réussi ta mission. Dites-le avec moi. J'ai réussi ma mission. Monsieur, vous êtes ici. Alléluia. Deuxièmement, là, je vais m'attaquer plus au rôle de la femme. Je vais prendre une grande gorgée. On va prendre des vitamines. Santé. Un bon père de famille doit être capable d'écouter son épouse. Un bon père de famille devrait être capable d'écouter son époux. Lorsque vous aimez votre famille, vous aimez vos enfants, que vous aimez votre épouse, vous apportez la paix, le bonheur, la sécurité dans votre foyer. En tant que couple, l'épouse a un grand rôle à jouer avec vous, monsieur. J'aimerais m'arrêter sur le deuxième point, le rôle de la femme envers son mari. En tant que femme, l'homme a besoin de se sentir aimé, fortifié par vous, madame. Je lisais un article sur la mort de Jean-Pierre Ferland, qui est décédé il n'y a pas longtemps, puis dans un de ses articles, il disait, M. Ferland disait, à tous les jours, il demandait à son épouse s'il l'aimait. Cet homme avait besoin d'être rassuré par sa femme qu'il était aimé. Et je dirais ce matin, madame, dites à votre mari que vous l'aimez, que vous l'appréciez, même si ce n'est pas toujours facile. Également, lui dire, la femme a besoin d'être écoutée. Monsieur, vous avec moi, elle a besoin de parler. Non, j'ai rien entendu. Monsieur, dites avec moi, elle a besoin de parler. Monsieur, dites avec moi, elle a besoin de parler. Monsieur, j'ai rien entendu, elle a besoin de parler. C'est dur, les hommes. Hein? C'est dur, les hommes. Oh, les hommes, les hommes. Quelle affaire que c'est. Esther 5, verset 1 au verset 3. J'ai pas le temps d'aller dans tout le dans le texte, mais on va juste sortir des points qui venaient à l'idée. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux, se présenta devant la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre, et le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que me demandes-tu? Quand il sera là, la moitié de mon royaume, il te sera donné. » Et si on fait l'histoire, on sait qu'un homme, Aman, veut détruire le peuple de Dieu. Donc, il n'aime pas Mardoché, l'oncle de Esther, qui est un juif. Et en tant que juif, il ne veut pas s'agenouiller devant Aman. Et Esther, on sait aussi, c'est une juive et personne ne sait. Et la reine Esther, maintenant, est au courant que Aman veut détruire son peuple. Et Esther est devenue reine, elle est reine. Et Esther, ça veut dire étoile. Et elle est juive et personne ne sait sauf son nom. Maintenant, en étant au courant que le roi veut assassiner, tuer et éliminer son peuple, cette femme va prendre un temps de prière, un temps de jeûne, elle se prépare à rencontrer le roi. Et à cette époque, les femmes, ou peu importe la personne, n'avaient pas le droit de se présenter devant le roi sans la permission, sinon ils pouvaient se faire égorger, lapider et tuer. Donc, cette femme a été courageuse, cette femme va aller devant le roi sans invitation, et à partir de ce moment-là, cette femme va s'apporter, elle a mis ses plus beaux habits, sûrement bien maquillée, bien belle. Et cette femme, elle a confiance en Dieu, elle est en sécurité devant Dieu, et quand le roi l'a vue, il a trouvé grâce à ses yeux. Lisons Esther 5, 3. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que me demandes-tu? Quand sera la moitié du royaume, il te sera donné. » Vous savez, les épouses savent comment nous séduire pour nous approcher dans des saisons où l'homme a besoin d'entendre la sagesse de votre épouse. C'est-tu beau, hein? De l'écouter. Elle vit avec ses luttes, elle vit avec ses combats. Elle a besoin, Marie, que tu l'écoutes. Elle a des choses à te partager. Et ça peut concerner sa vie, ça peut concerner ses projets, ses enfants, mais aussi l'inquiétude qu'elle a envers vous. Et vous, en tant que leader de foyer, quand elle dit qu'elle veut vous parler, taisez-vous, écoutez, arrêtez. Moi, Manon, elle est pire que ça, elle me ferme l'ordinateur au nez. Je vais te parler, jeune homme. Pas le choix, hein? Parle, mon amour, parle, parle, parle. Sauvons les meubles. Oh, mon amour. Spécial, alléluia. La reine Esther, elle va lui dire, « Écoute, roi, je vais te parler. Écoute, je veux t'apporter des bons conseils. Je crois que tu n'as pas pris des bonnes décisions. Tu as été mal conseillé. Je veux t'apporter des bons conseils. Je crois que tu n'as pas pris une bonne décision en tuant mon peuple. Tu as été influencé. » Et la femme a quelque chose à dire à son mari d'extraordinaire. « Écoute-moi! Monsieur, vous avez besoin. J'ai besoin. En tant qu'homme, que ma femme me coach des fois. Pas tout le temps, mais des fois. J'ai besoin de ses conseils. Allô? » Souvent, les ruptures, les chicanes, les manques de pardon dans les couples, parce qu'il n'y a pas de communication. Allô? Communiquer, c'est parler, savoir écouter, communique. Souvent, il n'y a pas de terrain d'entente, c'est de l'indifférence et la frustration se fait sentir, la moutarde monte au nez, puis il y a des débalancements émotifs et tout s'écroule pour se demander pourquoi. Marie, écoute ta femme! ça, j'ai pris une gorgée d'eau. Elle a des conseils à vous donner. Elle raisonne, elle aussi. Elle peut t'emporter des choses très positives. Esther, c'est une femme qui avait de la sagesse, qui avait de la douceur, calme, confiante. Cette femme veut parler, écouter. Si vous parlez toujours, vous ne l'écoutez pas, ben, demandez-vous pas pourquoi ça ne va pas bien dans le couple. Faites une pause et réalisez qu'elle veut dire qu'elle a des choses à dire. Dis comme le roi. On va rire un petit peu, là, qui dit à la reine, revenons au verset, « Qu'as-tu, reine Esther? Qu'as-tu, ma belle étoile, à me demander? » Qu'as-tu, ma belle étoile, à me demander? Allô? Elle brille de tous ses feux. Alléluia. Quand il l'a vu, il était épanoui. Qu'as-tu à me demander, ma belle Esther? Et souvent, les femmes brillent, puis on dirait qu'on ne les voit pas briller. Ça demande la bravoure de parler des fois. Pas tous les hommes qui sont prêts à écouter. Pourtant, monsieur, c'est votre bras droit. Elle peut vous apporter de sages conseils. Et on voit dans notre texte, si vous allez plus loin, le texte nous dit que le roi n'a pas demandé l'opinion de sa femme. Il a pris la décision sans elle. Et les femmes sont malheureuses parce que le mari fait juste à sa tête puis n'écoute pas. Sans consultation avec votre partenaire, je vous le dis honnêtement, vous allez tout droit dans le décor. Allô? En tant que couple, nous avons de la redevance. Nous sommes pas seul. La Bible nous dit qu'on devient une seule chair. Et nous devons partager nos sentiments, nos craintes, nos doutes, nos douleurs, nos incompréhensions. Et nous, en tant qu'hommes, dans notre faiblesse, ouvrez vos émotions. C'est dur, mais il faut le faire. Avouez vos manquements. Bien des choses, j'ai pris mon courage à cinq mains pour parler à Manon. Pas à deux, à cinq. Plisse mon orgueil. C'est pas été évident, c'est pas facile. Pourtant, il faut dire les choses. Écouter, admettre ses faiblesses, trouver des solutions ensemble. Monsieur, tu peux pas vivre tout seul si t'es marié. T'es marié! Elle est là, elle vit avec toi. Alléluia! Tu couches dans le même lit, hein? Manon me pose souvent cette question. Pourquoi tu veux prendre telle et telle direction? C'est quoi qui te motive à prendre telle et telle direction? Et elle s'exprime, elle se soucie de moi. Elle fait bien. C'est mon bras droit, comme épouse et comme dans le ministère. Et j'ai besoin des conseils de Manon. Elle sait, je vous le dis, là, ceux qui vont connaître Manon plus tard, un petit peu plus, elle sait s'exprimer, me parler, me fait réfléchir, même je n'aime pas toujours ce qu'elle va me dire. Des fois, je dis, tu vois, tu pousses. Elle dit, je ne pousse pas encore assez. Elle me fait réfléchir. Puis des fois, je n'ai pas le goût de réfléchir. Mais ça fait son chemin, comprenez-vous? Elle ne m'impose pas, mais elle me fait réfléchir. Et c'est quoi? C'est son but. De me faire réfléchir. Les femmes ont des sentiments que l'homme n'a pas. Marcher seul, c'est votre perte. Écoutez, j'appelle ça la communication. Ne soyez pas comme ce roi qui a été mal influencé. Satan qui veut détruire le peuple comme Satan veut détruire notre couple. Sachez écouter votre reine, votre étoile. Elle brille, elle est à côté de vous. Je vais parler à vous maintenant, monsieur. Monsieur, ne négligez pas votre marche avec le Seigneur. Ne négligez pas votre marche avec le Seigneur. Parce que ça va se faire ressentir dans votre foyer. C'est là, madame, que vous intervenez, que vous le supportez spirituellement, de lui emporter de véritables encouragements spirituels. Sûrement que vous priez pour lui. Peu importe, vous êtes avec des enfants ou pas, madame, veillez sur votre mari. Peut-être votre mari n'a plus la bonne priorité. Trop occupé, ne prie plus, ne vient plus à l'église, ne lit plus sa parole, délaisse l'église. Donc, il y a d'autres occupations dans sa vie. Il n'entretient plus de relations avec ses frères et ses sœurs. Sans l'intimité du Seigneur, Tous ont le risque d'aller dans une mauvaise direction. Ah, dites-moi un gros amen. Alléluia. Personne n'est exclu de cela. Satan et ses démons veulent vous détruire et c'est souvent le piège qui arrive. On est fatigué, notre temps est volé, on n'a plus notre relation. Madame, soyez avec lui pour qu'il devienne un meilleur père, un meilleur leader, un meilleur témoignage. Accompagnez-le. Allô? Soyez avec lui. Pour sa famille, pour son environnement, soyez à votre tour un modèle de persévérance. Oh, hallelujah, je termine dans quelques instants, ça ne sera pas trop long. Le plan de Dieu, c'est que votre mari soit un bon leader. Puis je crois, dans l'année qu'on est aujourd'hui, on a besoin d'avoir des leaders qui se lèvent. On a besoin d'avoir des maris forts, des maris à leur place. Des maris qui sont capable de bien diriger son foyer. Alléluia! C'est votre responsabilité. Vous aurez des comptes à rendre avec le Seigneur avec ces choses-là. Sinon, vous courez à votre perte. Votre famille devient malheureuse et ce n'est pas un bon témoignage. Ce que je dis, on doit se préoccuper de l'un et de l'autre. L'homme a besoin de se sentir en sécurité. Madame, efforcez-vous d'être constamment une force, une source de force pour votre conjoint. Parle du couple un matin, responsabilité de l'homme et de la femme qui l'accompagne. Lui dire exemple, et je vais terminer bientôt là. Lui dire exemple, un exemple. Je sais, mon amour, que tu passes un temps dur, c'est délicat, mais ensemble, on va traverser la mauvaise passe. Lui dire à ton mari, souviens-toi, je serai toujours avec toi à tes côtés. Lui dire que je resterai avec toi, je t'aiderai à t'en sortir, je mettrai la main à la charrue. Je veux t'aider. Appuie-le dans sa démarche. Dites-lui, ensemble, on va trouver des solutions. Ensemble, on va y arriver. Ensemble, on va passer les épreuves. Ensemble, ça sonne unité. Combien ont eu besoin de leur femme pour se faire relever? Soyez honnête, le monsieur, là. Moi, en tout cas, je n'ai eu de besoin. Je vais être franc avec vous, là. J'ai eu besoin que ma femme prenne position et dire, écoute, là, arrête d'avoir la tête dans le sable et lève ton nez un peu. Allô? C'est dans ces moments-là qu'il est important de dire « Mon amour, je t'aime, puis ensemble, on est plus fort que seul. » Rassurez votre homme. Rappelez-lui qu'il a de la valeur aux yeux du Seigneur. Édifiez-le. Alléluia. Il a besoin d'être relevé. Incitez-le à combattre le bon combat de la foi, même si c'est difficile. Manon a le su, je vous dis honnêtement, me supporter dans des situations. On va dire les vrais mots que j'avais la calotte à terre. J'avais besoin d'avoir une meilleure image de moi. Et elle me disait, Serge, tu es un homme de valeur. Tu passes un temps dur, moi je crois en toi. Allô? Elle était là pour moi. Elle m'a encouragé à persévérer dans l'appel pour le ministère. Elle m'a encouragé d'être le meilleur. Elle a dit, vas-y mon amour, t'es capable, doute pas de toi, je t'accompagne. Dites-le à votre mari que tu crois en lui, ne doute pas de lui. C'est les meilleurs conseils que je peux vous apporter ce matin. Même si je ferais de la relation d'aide avec vous, avec les couples, c'est les conseils que je vais vous donner. Soyez là, écoutez-le, encouragez-le, fortifiez-le. Alléluia! Quand tu es abattu, tu as besoin d'être relevé. Quand ça ne va pas, tu as besoin de courage. Ça prend quelqu'un qui va te dire, « Hey, on est là, là. On va s'en sortir. » Alléluia! Et le dernier psaume, psaume 108, verset 7, 138, verset 7, « Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. » Ça veut dire que Manon, le Seigneur s'est servi de Manon, pour me redonner l'espoir dans mon désespoir. Dites à votre époux en terminant, « Je suis fier de toi, mon amour. » Allô? Dites à votre femme le matin, là. Ou monsieur, dites à votre femme le matin, « Je suis fier de toi, mon amour. » C'est-tu valorisant, ça? Hein? Fais-tu du bien, ça, un petit peu? Est-ce que ça a du sens? Ensemble, on est plus fort que seul. On va réussir. Et Ecclésiaste, dernier verset, chapitre 4, verset 12, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » Donc, si on est avec le Seigneur, si on est proche avec Dieu, alléluia, le Seigneur est notre main d'association, c'est notre corde de secours. Alléluia. Père, je termine. Soyez fiers de votre foyer. Soyez fiers de votre épouse. Soyez fiers de vos enfants. Et leur dire, qu'est-ce que vous avez, c'est le plus important, c'est eux. C'est vos enfants. C'est votre femme. D'être fier de lui dire, je suis fier de toi. Valorisez. Valorisez, monsieur. Les hommes, on est têtus avec ça. Épouse, marche en unité avec ton mari. Accompagne. Accompagne-le dans son rôle de père. Et monsieur, sois ce leader, sois ce modèle pour ton foyer. Amen. On va se lever ensemble.